Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After en direct sur RMC 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. Soirée foot avec Sébastien Piocelle ce soir. Comment ça va Seb?
Ça va Thibaut, salut.
Menteur. Menteur, je sais que ça va pas du tout.
Je suis un peu en stress, j'avoue.
Seb, l'ancien Nantais, voilà, pour expliquer ce niveau de stress. Excitation maximale les gars, dans une heure pile, la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, les 10 matchs en même temps, un grand moment de la saison, et on a sorti tout le monde sur RMC, 10 commentateurs sur toute la pelouse, et on a même sorti Gilbert Bribois et Daniel Riolo un samedi soir, donc là, je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ils seront là dès le coup de sifflet final, et jusqu'à 1h du matin ce soir, pour avoir le temps de débriefer les 10 rencontres, un soir où Paris peut être, doit être champion, où Lens peut être officiellement deuxième, ou à l'inverse, l'OM peut s'en rapprocher. La course à l'Europe, la course au maintien, bref, il y a encore énormément d'enjeux ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une heure jusqu'au coup d'envoi pour faire un tour des pelouses, prendre l'ambiance, les compos, les enjeux. On sera partout. 32-16, vous le savez, vous êtes à l'écoute. Si vous voulez venir passer à l'antenne supporter d'un de ces clubs, vous venez débattre avec l'After Live, nous donner un sentiment, vous nous appelez, vous passez en direct sur RMC. Je vous lis également sur le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport ou sur Twitter, le hashtag RMC Live. Soyez bienvenue. Et avant notre grande soirée Ligue 1 qui va nous emmener sur 10 pelouses ce soir, un coup d'œil à l'étranger et une information d'importance à vous donner à 20h01, et ce n'est pas une bonne nouvelle, elle nous vient d'Italie. La Roma vient de perdre, Seb, face à la Fiorentina, 37e journée de Serie A. L'AS Rome est donc 6e de Serie A et ne peut mathématiquement plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Conséquence, le 3e de Ligue 1, que ce soit ce soir, qu'on le connaisse ce soir ou la semaine prochaine, devra forcément passer par les barrages de Ligue des Champions. Ouais. On s'y attendait un peu.
Alors il y aurait pu avoir un peu de suspense puisque la Roma avait ouvert le score. Mais c'est vrai que du coup, il faudra passer par ces fameux barrages, donc tour préliminaire et barrage pour l'OM ou Lens.
Et puis on a un coup d'œil particulier également au Portugal, où c'est la dernière journée qui a lieu en ce moment. Le titre se joue à distance entre Benfica et Porto. Et à la pause, Benfica, qui avait 2 points d'avance, conserve son avance et est donc virtuellement champion du Portugal. Le Benfica, évidemment j'ai perdu la fenêtre au même moment, mais qui menait 2-0, alors que Porto mène dans le même temps 2-0 pour Benfica contre Santa Clara, c'est la mi-temps, et Porto mène 3-0 contre Guimarães à la pause. Mais donc Benfica bien parti pour être sacré champion. 20h02. On y va Seb.
Parti.
Direction l'Est, direction Strasbourg, la Méno, où les Strasbourgeois reçoivent le Paris Saint-Germain. Salut Sébastien Ruffet.
Salut tout le monde, bienvenue à la Méno et sous le magnifique soleil de l'Alsace.
Ah, c'est... Oui. Alors, en général, quand on est à Strasbourg, là je resitue un peu, quand on est dans l'Est, c'est un peu comme en Bretagne. Quand on le signale comme ça, c'est qu'il est vraiment là et qu'on a besoin de le signaler.
Et qu'il fait du bien quoi.
Il fait du bien, qu'il n'a pas été là souvent.
Je me trompe. Écoutez, on a une journée absolument magnifique. Ouais. Arthur Perrault pourra vous le confirmer plus tard. 25-26 degrés sur l'Alsace, un grand soleil. Des supporters qui se sont réunis pour faire une marche tous ensemble. Franchement, tout est réuni pour avoir une soirée magique à la Méno.
Arthur Perrault, je l'imagine tout rouge là du coup après cette journée.
Écoute, ça va, il a fait attention.
Bon, en tout cas, une journée qui peut être d'importance pour notre championnat puisque ce soir, le Paris Saint-Germain, Seb, à l'occasion de finale, travaille un point et Paris sera champion.
Ouais, un petit point qu'il faut venir chercher quand même ici au stade de la Méno. On voit que on pensait qu'ils allaient survoler sur ce championnat, les Parisiens, quand on a vu le début de saison. Et puis finalement, l'après-Coupe du Monde, c'est pas passé comme ils l'avaient imaginé. Ils ont perdu des points par-ci par-là, plusieurs défaites, ils ont vu Lens se rapprocher et on en est à se dire qu'à la 37e c'est pas encore fait. Effectivement, un petit point à prendre, et quand on voit le match la semaine dernière à Auxerre qui a été loin d'être simple finalement pour des Parisiens qui s'imposent que 2-1 face à des valeureux Auxerrois qui jouent aussi leur maintien et leur vie dans cette Ligue 1, eh bien avec un Strasbourg un peu plus conquérant, avec une grosse ambiance également, avec cette envie aussi de chercher un bon résultat pour dire, alors ça on en parlera tout à l'heure, mais pour dire au revoir à la Méno telle qu'elle est, puisque les travaux vont débuter cet été. Voilà, ils vont tomber sur des Strasbourgeois qui ont vraiment les dents longues, qui ont vraiment les crocs, une grosse ambiance. Donc pourquoi pas une petite surprise à la fin de la soirée, et pourquoi pas un dernier petit suspense sur la 38e journée. En tout cas, voilà, les Parisiens, il faut faire le boulot, on va dire, et prendre au moins un point ici à la Méno ce soir.
Sébastien Ruffier, Seb Piocelle qui prévient les Parisiens quelque part. C'est pas fait ce soir.
Ouais, mais en plus, je comprends les arguments. D'abord, ça reste toujours un match de prestige, recevoir le PSG. C'est le dernier match de la saison à domicile. Et puis Strasbourg, alors, même si, bon, c'est quasiment acté. On voyait Fred Antonetti avec le nul la semaine dernière qui pestait un petit peu, mais bon, il a fait un travail énorme en quelques matchs. Et puis c'est une équipe qui offensivement a des atouts, donc qui voilà, qui peut embêter cette équipe du Paris Saint-Germain. De là à gagner le match, pourquoi pas. Ça va dépendra aussi de la prestation des Parisiens. Mais en tout cas, ça ne sera pas un match facile a priori pour le PSG.
Oui, Strasbourg, bon, on parle de maintien. C'est, en fait, c'est, un,
c'est
Sébastien.
C'est un peu comme le PSG en fait.
Exactement.
Avec Lens. C'est-à-dire que c'est ça. Bon,
c'est presque voilà. Fait, mais ouais. Pas tout à fait. Ouais. C'est ça le truc. Mmh.
Et t'as les compos à nous donner.
Nous avons les compos effectivement avec les Strasbourgeois. Tiens, d'abord qui vont évoluer dans le 5-4-1, on va dire, un petit peu habituel désormais, avec Matsels dans le but, bien sûr. La défense à 3 avec Doucouré, Niamsi, Perrin. Fred Gilbert va prendre le côté gauche, lui le droitier a priori. Colin Dagba, qui connaît bien forcément les Parisiens, lui va jouer sur le côté droit. Bellegarde et Sissoko à la récupération. Et puis un trio offensif avec Sanson plutôt sur un milieu offensif gauche. Habib Diarra qui est en pleine bourre en ce moment, plutôt sur un milieu offensif droit. Et Habib Diallo évidemment à la pointe de l'attaque avec ses 20 buts. À surveiller bien sûr côté parisien, c'est ce qui était annoncé de Donnarumma dans les buts. La défense à 3 également. Avec Danilo, Sergio Ramos et Bichabou. Le côté droit, ce sera pour Zaïre Emery. Il enchaîne à ce poste-là. Juan Bernat sur le côté gauche. Devant la défense, on aura Verratti associé à Vitinha. Et Carlos Soler va se mettre en soutien de Léo Messi et de Kylian Mbappé.
Bon, Seb, un mot sur les compos, notamment celle du Paris Saint-Germain. Pas vraiment de surprise.
Elle est assez logique au vu des joueurs à disposition pour Christophe Galtier.
Moi, ouais, pas mal d'absents, effectivement.
Ouais, je suis content aussi pour les jeunes, même si bon, Zaïre Emery joue pas forcément à son poste, mais en tout cas, ça lui permet aussi d'enchaîner. Et après, voilà, Messi, Mbappé devant quand même, quoi qu'il arrive, quand il y a ces deux-là sur le terrain, on peut s'attendre à beaucoup de choses.
Soler, Seb, t'as dit.
Ouais, Soler derrière.
Non, je crois qu'il est sur le banc. Hein, non, j'ai une autre compo, moi, peut-être.
Non, on a vu la feuille de match officielle, donc a priori.
Ok, moi j'avais
Renato Sanchez. Dernière minute,
peut-être qu'il a déjà été remplacé avant, ouais. Avant le début du match.
J'avais Renato Sanchez et Vitinha. Bon, en même temps, c'est vrai que Soler, qu'il soit là ou pas, de toute façon, tu le vois pas.
Ça a toujours un doute.
Ouais.
Un mot rapide des absents, peut-être, parce que voilà, Seb l'a dit, en fonction de ceux qui sont présents. Donc, côté Strasbourgeois, il y a seulement Alex Djikou qui est suspendu. Alors, bon, seulement, ça reste quand même. Le plus gros défenseur, on va dire, côté strasbourgeois, il va forcément manquer parce que c'est vraiment un gros combattant. Mais côté parisien, Hakimi qui est suspendu, et puis la liste des blessés s'est allongée encore. Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Mukiele, Ekitike, Neymar. C'est vrai que voilà, je crois que Christophe Galtier l'a dit également. Faut aussi voir parfois dans la saison le nombre de blessés et d'absents qu'on a eu. Ça n'a pas toujours été simple de composer des équipes, et c'est encore le cas ce soir, même si évidemment le 11 de départ tient la route. Mais il faut aussi voir la liste des absents.
Merci Seb, de toute façon tu restes connecté à tout moment s'il se passe quelque chose. On est sur les 10 pelouses en direct, hein, donc on bouge à tout moment. Le Paris Saint-Germain peut être champion, vous êtes sur RMC, c'est l'after live. Bon, ça dépend de lui, hein, Seb. Paris prend un point, il sera officiellement champion. Si Paris perd, il peut même être champion si Lens ne s'impose pas contre Ajaccio. Ça se passe à Bollard avec Jean Baumel, bien sûr. Salut Gibo.
Salut Thibaut, bonsoir Seb, bonsoir. Salut à toutes Gibo. Et à tous.
Bon, Gibo, à Bollard cette saison, on va pas faire, bon, c'est un grand soir, il y a que des grands soirs à Bollard. Mais ce soir, on a prévu un très très grand soir, on veut fêter le retour de la Ligue des Champions.
Ah bah écoute, 20 ans après la dernière Ligue des Champions, parce que des Coupes d'Europe, il y en a eu après, il y a eu notamment l'Europa League et la Coupe de l'UEFA pour les Lensois, mais la Ligue des Champions, il y a eu deux participations. Et la dernière, c'était 2002-2003. Et il y avait en phase de poule, t'imagines, Milan AC, la Corogne, parce que la Corogne à l'époque, c'était quand même un gros club. Et le Bayern de Munich. C'était un beau groupe. Hein. Et donc, voilà, ils vont certainement y regoûter à la rentrée prochaine. Il faut, pour être sûr, gagner. Comme ça, on ne pense pas à ce qui se passe entre Marseille et Brest. Et on est à 26 matchs à guichet fermé consécutivement ici à Bollard. C'est incroyable. Je vous le disais aussi, il y a une liste de 10 17, 18 000 supporters en liste d'attente pour s'abonner. Il y en a 29 500, mais il n'y en aura pas plus. Donc voilà, le premier qui s'est inscrit sera le premier servi avec celui qui va rendre son abonnement. Mais il n'y en aura pas beaucoup qui vont le faire parce que quand tu es abonné, bah, tu es prioritaire aussi pour acheter des places en Ligue des Champions.
Il faudra être tout pour le rendre maintenant.
Ouais. Oui. Donc ouais, c'est un véritable succès. Et c'est vrai que ça fait des malheureux parce qu'il n'y a pas assez de place. Ouais. Mais bon, c'est beau, c'est magnifique. Après, et c'est sûr qu'il y aura une explosion de joie si... si ça se confirme ce soir.
Au pire, il faut compter sur Brice Samba qui lâche des places encore dans le match.
Il est capable. Hein.
Et il a recommencé aujourd'hui. Hein, je sais pas si t'as vu sur Twitter.
Oui, non, mais c'est une habitude.
Ouais.
Mais en Ligue des Champions, je pense que là, est-ce que ça dépend des affiches. Hein.
Ça dépend des affiches. Peut-être qu'il les revendra.
Il y en a plein qui rêvent du Real Madrid. Puis il y en a un qui connaît bien le Real Madrid. Il est en dessous de moi. Je l'ai pas encore vu.
C'est qui?
Devinez, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est chez nous.
De quoi? Attends.
Un fou de Lens qui connaît le Real Madrid par cœur.
Ah, Fred Hermel!
Voilà!
Ah, il est là, le Fredo. Oui, c'est vrai que son cœur est lensois, celui-ci. Il est là, tribune de presse?
Non. Non, il a été invité.
Ah, bah voilà, bien sûr.
C'est bien.
Bon, c'est ce soir, on veut valider la deuxième place, on est d'accord. Il y a 5 points d'avance sur Marseille. Le plus simple, c'est de gagner. Si tu gagnes, aller dans la poche, cette deuxième place.
Gagner, et puis bon, c'est la saison de tous les records. 78 points, le club ne l'a jamais fait. On serait en cas de victoire sur 17 matchs gagnés à Bollard sur 19.
Comme Manchester City. Donc.
Tu vois aussi la stat, ça serait incroyable. Chuter contre Ajaccio, ça ferait un peu tâche face à une équipe qui malheureusement est en Ligue 2 et galère et a du mal à finir sa saison. Donc tout le monde attend un spectacle et surtout la concrétisation et d'aller au Serre le cœur un peu plus léger la semaine prochaine. Et au niveau des compos, il n'y a pas de surprise. Hein. Je vous le dis clairement. Frankowski suspendu, donc Sotoka sera piston droit, piston gauche sera Machado, puis derrière on va retrouver Medina, Danso, Grady pour la défense centrale, Brice Samba bien sûr dans le but, Abdoul Samed et Seko Fofana, et devant ce qui veut dire que Thomasson va prendre la place de Sotoka habituellement, Fulgini à gauche, et en pointe le meilleur buteur lensois, il aimerait bien passer la barre des 20, tu sais, un petit deal qui s'est fait avec Roger Bolli, hein, puisque en 94 l'ancien attaquant de Lens,
il y a une célébration d'ailleurs, non,
de faire l'avion, tu sais, les bras comme ça, il espère le faire ce soir, égaler ou même dépasser Roger Bolli qui était venu ces derniers temps à Bollard. Je ne sais pas s'il est là ce soir, en tout cas il y a cette envie aussi pour l'international belge de franchir cette barre mythique des 20 buts.
Seb, dans le football on ne sait jamais, grande phrase, mais imaginez que Lens ne batte pas Ajaccio ou s'incline ce soir, on a quand même du mal à le concevoir.
Ah, franchement, quand on voit les deux dynamiques, c'est même plus des dynamiques, c'est que au-delà du parcours de Lens à domicile qui est impressionnant, incroyable, on a une équipe d'Ajaccio qui est complètement en perdition, qui est déjà en Ligue 2, qui encaisse but sur but. Donc sincèrement, je vois pas comment ça serait possible. Après, il faudrait être déjoué, mais dans ce genre de match-là, avec l'ambiance qu'il y a, c'est démarrer très très fort. En plus, Ajaccio encaisse des buts souvent assez rapidement. Démarrer très très fort et puis essayer d'enchaîner. Sincèrement, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas ne pas battre Ajaccio à domicile.
Dans un instant, on va aller au Vélodrome, retrouver Florent Germain, Marseille, qui a encore un petit espoir, tout petit, de deuxième place, de revenir sur les Lensois, mais espoir infime. Et le Vélodrome qui sera en fête également ce soir. Mais juste avant, on retourne à la Méno, retrouver Sébastien Ruffet. Il y a eu un petit changement finalement de dernière minute dans la compo parisienne.
Ouais, non mais Thibaut, je pense que je vous ai parlé du soleil, ça m'a un peu tapé sur le crâne.
Ah. Je voulais pas le dire.
Mais c'est ma faute, c'est mea culpa, c'est pour moi, je prends. Effectivement, Carlos Soler est sur le banc, c'est bien Renato Sanchez qui débute cette rencontre en soutien de Messi et Mbappé. Ça c'est juste.
Bravo,
toi, je suis un peu dans la position, tu vois, du défenseur qui foire sa première relance. Après, c'est vrai qu'il faut être fort dans la tronche pour se relancer, pour ensuite faire une bonne prestation.
Après, il peut rentrer rapidement si Sanchez se blesse.
Oui, voilà, ça va être ça.
Exactement. Mais écoute, on garde confiance en toi, Sébastien.
C'est gentil, merci.
Assure tes relances dans les prochaines minutes et tu vas avoir la confiance.
Je vais me mettre en confiance dès le début du match.
Djikou est bien suspendu.
J'espère qu'il apparaît pas sur le terrain parce que là, on aura l'air malin.
Allez, Seb, merci beaucoup, à tout à l'heure. Il est 20h13. Dans un instant, le Vélodrome, c'est l'After Live sur RMC dans un peu plus de 3 quarts d'heure. Le coup d'envoi des 10 matchs de la 37e journée de Ligue 1. Azeu écrit sur le direct studio. Belle journée ensoleillée. Roland Garros qui commence. Une saison de foot qui se finit. Je suis tout excité. Ça sent presque les vacances. Ça mérite de fêter ça avec un barbecue en écoutant le multiplay. C'est Azeu, je te souhaite une belle soirée et un bon appétit. L'After Live revient dans un instant avec Sébastien Piocelle en direct du Vélodrome. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Il est 20h17, Sébastien Piocelle est là, c'est une soirée événement qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de lancer, la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, 21h, le multiplex, les 10 matchs, nos 10 commentateurs sur les 10 pelouses, et dans la foulée, l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo un samedi soir, et oui messieurs dames, jusqu'à 1h du matin, et d'ici là avec Seb, on fait le tour des stades, les enjeux, les compos, les ambiances, d'ailleurs il y a les compos qui commencent à tomber, là on reçoit des mails de tout le monde dans les stades, il y a des petites dingueries ce soir, notamment à Lyon, Lille également. On ira tout à l'heure, on s'intéressera bien sûr à la course à l'Europe, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, le maintien bien sûr entre Auxerre et Nantes, mais terminons, concluons sur la course, allez, à la deuxième place, il reste un petit espoir. Salut Florent Germain au Vélodrome.
Écoutez, c'est pour vous. Oh là là. Et non, ce sont pour les Brestois. Salut les amis, salut à tous. Le Vélodrome qui est déjà bien plein pour OM-Brest.
Ah oui, 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 qui fait déjà beaucoup de bruit. J'ai perdu un tympan, j'étais pas prêt. bon Flo, je le dis, un tout petit espoir de deuxième place pour l'OM. Il y a 5 points de retard sur Lens avec, d'ailleurs entre parenthèses, la mauvaise nouvelle qui date d'une vingtaine de minutes, la Roma qui a perdu, qui ne pourra plus terminer en Ligue des Champions en Serie A, donc même si la Roma remporte la Coupe d'Europe, le troisième du championnat de France devra passer par les barrages. Bon, il y a ce petit espoir toujours, Klaus en a parlé cette semaine, mais il y a surtout un soir de fête au Vélodrome, hein, Florent.
Un peu des deux, c'est vrai que les Marseillais ils vont d'abord essayer de faire le métier, de s'imposer contre Brest, de n'avoir aucun regret, on ne sait jamais hein, si Lens pris de cette pression ouais. Des matchs où il faut conclure avec des difficultés, on n'y croit pas trop, mais malgré tout du côté de Marseille et des Olympiens, on veut faire le taf face à Brest. Ne pas se manquer, effectivement, tu l'as dit, dans une ambiance qui est très sympathique, qui est très festive depuis hier avec les festivités autour des 30 ans du 26 mai 93. Là, on voit bien que quelque chose se prépare. S'il y a quelqu'un qui n'est pas habitué au Vélodrome, qui rentre au stade, on devine que va y avoir un tifo magnifique parce que tout est préparé. Les virages, c'est pas tout le temps le cas non plus. À 1h du match, ils étaient déjà quasiment remplis. Il y aura 65 000 sets de table, on appelle ça, pour faire le tifo sur les quatre tribunes et mettre à l'honneur les anciens, surtout de 93. On les a vus d'ailleurs dans les coulisses. Aujourd'hui, ils sont allés à la commanderie. Ils ont été invités par Pablo Longoria aussi à déjeuner à la Villa Gabi sur la corniche. On les a vus dans les coulisses du stade. Là, je crois qu'il y en a qui arrivent d'ailleurs sur la pelouse. Non, ce sont là les Marseillais de l'équipe actuelle. C'est pas Barthez, c'est Paul Lopez qui arrive sur la pelouse. Il est acclamé. Mais voilà, ambiance festive et bien finir au Vélodrome pour le dernier match de la saison. 19e de suite à guichet fermé en Ligue 1. Donc ça aussi, ça restera dans le bilan de la saison. Un point majeur positif. L'ambiance aura été très très bonne et il y aura eu une adhésion entre le public et cette équipe, même s'il y avait troisième place.
Oui, c'est vrai que on le disait tout à l'heure, Seb Piocelle, on a du mal à imaginer les Lensois, mais finalement pourquoi pas. Regarde cet après-midi, le Borussia Dortmund, il fallait gagner pour qu'il soit champion, finalement il s'incline et c'est le Bayern qui est champion. C'est sûr qu'il ne faudrait pas avoir des regrets pour les Marseillais, de se dire que Lens ne fasse pas le taf de l'autre côté.
Voilà, mais déjà eux qui fassent le boulot déjà pour remercier leurs supporters, quelque part c'est le dernier match à domicile. Il y a les 30 ans, voilà, il y a plein de choses qui font que logiquement ils devraient faire un grand match et s'imposer. Après là on parle sur deux journées, donc c'est-à-dire que Lens qui pourrait éventuellement aller catastrophe perdre ce soir, il leur resterait quand même encore une cartouche le week-end prochain. Mais bon, pourquoi pas, moi j'y crois pas trop, mais voilà, surtout déjà par rapport à l'année qui a été faite, avec certainement des regrets à la fin, même si au niveau comptable. Et même au niveau du jeu, alors il y a eu beaucoup de choses très très positives du côté de l'OM. Terminer le championnat du mieux possible. Ils devront certainement passer par ces fameux barrages. Mais voilà, avec le monde qu'il y a, avec l'ambiance qu'il y a, avec le tifo qu'il va y avoir, voilà, faire le boulot et pourquoi pas gagner avec beaucoup de buts.
Je parlais Alexis n'a pas marqué, hein. Alexis Sanchez n'a pas marqué. Si vous l'avez entendu, le speaker, c'est uniquement parce qu'il reçoit à l'instant même le trophée d'Olympien de la saison. Et je trouve que c'est bien logique. Oui, oui. Il a été célébré et acclamé par le Vélodrome à l'instant même.
Il y avait match avec Tavares, vous hésitez finalement.
Avec Balerdi.
Ah, oui, voilà. Mais Balerdi, alors attends, qu'on rigole.
Et demain,
rigole,
il sera pas
au rigole. Je sais que certains RMC ont eu du mal à y croire.
Oui, mais. Alors, mais c'est pas un fake, on est d'accord.
Non, non, mais
convoqué,
c'est un groupe élargi, non ?
En sélection argentine.
Ou pas ?
Ah, ben c'est un groupe élargi, je crois qu'ils sont pas loin de 30, mais bon, c'est pas non plus.
Non, non.
Il faut que je regarde exactement, mais ça reste une perf. Hein.
Après, ils jouent à l'OM.
Oui, oui, non, mais après, c'est toujours le même souci, c'est que. Certains techniciens voient au-delà, c'est-à-dire que nous, et je le comprends, hein, aussi certains consultants sont très critiques par rapport à certaines performances, ouais. Et logiquement, parce qu'il s'est manqué sur certains matchs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, et je pense que c'est peut-être le cas de Lionel Scaloni, qui voit un petit peu plus loin et qui se dit ah, il a quelque chose, je voudrais le voir avec moi lors d'une
rassemblement,
avec les champions du monde.
Et tiens, justement, la compo titulaire, je parlais de dinguerie dans les compos, bon, on n'en est pas là non plus,
une
mais
petite surprise,
débrouillez, petite surprise quand même.
Une petite surprise, Eric Bailly qui est titulaire, ce n'est pas arrivé depuis bien longtemps, donc Paolo Lopez dans le but, les trois axios, Eric Bailly entouré justement de Balerdi et de Mbemba. Under à nouveau titulaire piston droit, c'est le cas en général quand il y a une compo offensive du côté de l'OM. Under à droite, Klos à gauche, Veretout et Rongier au milieu de terrain, et les trois offensifs, Alexis Sanchez et Guendouzi en soutien de Vitinha, le Portugais à nouveau titularisé ce soir. Et du côté de Brest, il y a du beau monde sur la pelouse, il y a notamment un quatuor, Belkebla, Pereira, Lage, Le Doiron, Mounier, c'est assez offensif.
Ah ouais.
Du côté de Brest qui évidemment va jouer relativement libéré et essayer de prendre plaisir ici au Vélodrome.
Pardon, une réaction sur la compo marseillaise, ouais, Bailly, c'est Bailly ou Vitinha titulaire sinon?
Ouais, bah Vitinha c'est je dis pas que
enfin,
c'est logique, ouais. Mais bon voilà, c'est l'opportunité de le titulariser. Après Bailly, ouais, certainement c'était, il y avait un nombre de matchs à pas dépasser, non, pour parler d'un éventuel.
Ouais, non mais là c'était réglé.
Donc à partir de là, il le fait jouer aussi. Donc non, par contre moi j'aime bien quand Under joue couloir droit. Je trouve vraiment intéressant. Ça avait été tenté, je te rappelle, Flo, très très tôt, hein, même dans les matchs amicaux.
Oui, exactement.
Je crois contre Norwich, il avait joué déjà là.
Il n'avait pas aimé et finalement il s'y est plus.
Ouais, donc pourquoi pas. Donc après, comme tu disais, à Brest, au-delà du fait qu'il soit relâché, quand on sait un petit peu les espaces qu'il peut y avoir dans le dos de la défense marseillaise, il y a de quoi faire aussi, hein, du côté brestois.
Marseille-Brest, coup d'envoi comme les 9 autres matchs à 21h. À tout à l'heure, Flo.
Et à tout à l'heure.
Tu nous appelles bien sûr avant, s'il se passe quoi que ce soit, Tifo ou quoi, on viendra te voir très vite. 20h24, vous êtes sur RMC, c'est l'After Live, le début d'une soirée exceptionnelle qu'on va partager ensemble dans un instant. La course à la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la course au maintien également. On va aller à Toulouse où Auxerre se déplace et peut se maintenir dès ce soir. On ira également à Lille où les Nantais, va falloir qu'ils regagnent un match quand même s'ils veulent espérer se sauver. 20h25, petite pause et on est de retour sur nos 10 terrains. Soirée exceptionnelle sur RMC, ne changez rien.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec Sébastien Piocel, merci de passer votre début de soirée en notre compagnie. Un soir exceptionnel, un soir de dingue qu'on s'apprête à vivre ensemble sur RMC à 21h. Le coup d'envoi du multiplex de la 37e et avant-dernière journée. Les 10 matchs en direct sur RMC avec nos 10 commentateurs sur toutes les pelouses. Et dans la foulée, l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Lionel Charbonnier également ce soir en direct jusqu'à 1h du matin. On est partout sur RMC, c'est un plaisir de partager ce grand moment avec vous. On continue nos avant-matchs, nos tours des stades avant les coups d'envoi. On s'intéresse dans quelques minutes à la course à l'Europe, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence, avec trois clubs qui vont se jouer la 4e, 5e et 6e place. On ira notamment à Rennes pour Rennes-Monaco, on ira également à Pierre-Mauroy pour Lille-Nantes, un œil également sur Lyon. Sapiocel, ça va être une grosse soirée, on vient de voir un tifo pour Olas, c'est étonnant. Avec Edouard G qui nous racontera ça, une sorte de voilà, c'est Dieu quelque part. Mais d'abord, la course au maintien. Et là, ils ne sont plus que deux pour une place pour se sauver. Avantage à Auxerre. Auxerre 17e qui a un point d'avance sur 16e, qui a un point d'avance sur Nantes, le premier relégable. Et Auxerre qui joue ce soir à Toulouse, où nous attend Aurélien Thiersin. Salut Aurélien.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Et Auxerre qui est donc légèrement mieux placé, qui peut acter son maintien ce soir, mais c'est loin d'être fait parce qu'il faut commencer par gagner. Et face à Toulouse, justement, c'est pas gagné.
Non, alors déjà parce qu'ils ont pris 5-0 lors du match aller, c'était au mois de janvier. Auxerre qui reste sur une défaite encourageante, entre gros guillemets évidemment, face au PSG la semaine dernière, une défaite de 2-1. Mais la série, elle est pas très bonne, hein, côté auxerrois, même s'ils ont affronté des gros, ils sont allés au Vélodrome, ils ont affronté Lille, ils ont affronté le Paris Saint-Germain. Ils restent sur 2 nuls et 3 défaites, donc ça avance pas très vite. avec 34 points en 36 journées, normalement, on a 97% de chances de descendre. Mais Auxerre a malgré tout son destin entre les pieds et pourrait même se sauver dès ce soir, parce qu'en cas de victoire et en cas de défaite de Nantes à Lille, ça serait assuré, ce serait validé le maintien pour Auxerre. Mais il va falloir jouer contre Toulouse, un Toulouse libéré. Alors ça crie pas comme au Vélodrome, mais il y a quand même une belle ambiance au stadium. Il y a évidemment une température magnifique. D'ailleurs, quel kiff d'être en t-shirt, ça arrive une fois par an. C'est ce soir et il y aura les 4 partants de fin de saison, quasiment l'âme et le poumon toulousain depuis 3 saisons, notamment le milieu de terrain de Jagerush, Pierings et Van Den Boomen. Tous les 3 quitteront le TFC à la fin de la saison. Il y aura un hommage d'ailleurs qui leur sera rendu à la fin du match avec Maxime Dupé, le gardien qui est dans la même situation. Donc ils auront certainement envie de montrer un beau visage au stadium avant leur départ. Le 11 toulousain avec Dupé justement dans les buts. Rouault, Nicolas Hyssen en charnière, Mikael Dessler à droite, Gabriel Soiseau à gauche, de Jagerush, Pierings, Van Den Boomen au milieu. Devant Thijs Dalinra qui reste bloqué à 12 buts. Depuis le 9 avril, parce que le TFC n'a plus marqué un seul but depuis la finale de Coupe de France. Abouklal et Ratao pour le trio offensif. Et puis pour se sauver, Christophe Pélissier côté Auxerre a misé sur de la stabilité des dernières semaines. Radou dans les cages, Joubal, Touré, Ravelosson en défense à 3, Zedatka à droite, Mensa à gauche, le capitaine Birama Touré et Anoa Massengo au milieu de terrain. Devant Sinayoko, le buteur la semaine dernière face au PSG, Gauthier Hein. Et puis Nuno Da Costa, le meilleur buteur au Serrois, meilleur entre guillemets aussi, parce que là, il n'y a que 5 buts de marqués cette saison pour Nuno Da Costa. C'est un des problèmes majeurs de la JA cette saison. Mais on le dit, on le répète, c'est peut-être un soir de maintien pour la JA Auxerre.
Question que je me pose depuis que je t'ai entendu nous énoncer les 97%. Pour calculer, tu as utilisé Pythagore, c'est ça, hein?
Exactement, ouais, absolument. Merci. Parce que c'est ma spécialité.
Hein. Bien sûr. Auxerre, Seb, Toulouse, c'est un peu la bête noire, mais... Effectivement, comme le dit Aurélien, quand on voit la dynamique toulousaine et celle auxerroise, même s'il y a eu la défaite, mais on a vu encore un Auxerre pas mal par séquence face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Ils sont pas mal les Auxerrois quand même.
Tout à l'heure, je parlais de contenu et puis aussi d'adversité par rapport au club qu'ils ont affronté là, les dernières semaines. Mais c'est surtout dans les attitudes où on sent quand même une équipe entre guillemets vivante d'Auxerre. Alors certes, ils ont juste un point d'avance sur Nantes. Après Toulouse, comme l'a dit Aurélien, voilà, c'est le dernier match là, pour ces quatre cadres. C'est le dernier match aussi à domicile. Je pense que entre Auxerre et Nantes, voilà, Auxerre reste mieux placé au-delà du point d'avance. Mais après, tout peut se passer. Je trouve quand même qu'avec Pélissier, ils ont retrouvé quand même une certaine stabilité. Ils encaissent quand même toujours pas mal de buts. Mais voilà, mais c'est une équipe vivante et dans l'esprit, dans les attitudes, ça reste une équipe qui peut poser des problèmes à Toulouse.
Bon, on rappelle que je cite que 2 clubs dans cette course au maintien. On va pas faire semblant. Les Strasbourgeois, mathématiquement, c'est pas fait, mais ils sont 6 points devant Nantes avec une large meilleure différence de buts. Donc on les compte pas là-dedans, les Strasbourgeois qui reçoivent le Paris Saint-Germain à 21h. Aurélien, tout à l'heure. Profite bien de ces dernières minutes ensoleillées en t-shirt et on te retrouve à 21h pour le coup d'envoi de ce Toulouse-Auxerre. Auxerre donc 16e, un point d'avance sur Nantes. Nantes qui en plus a la lourde tâche de jouer à Lille où nous attend Timothée Mémon à Pierre-Mauroy. Salut Timothée.
Salut Thibaut. Salut Seb. Salut.
Et on va accueillir également David Filippo. Salut David. David qui est ce soir au stade Raymond Coppa pour Angers 3. Donc autant dire qu'on va pas beaucoup l'entendre ce soir, mais on va profiter de son expertise nantaise puisque David suit le FC Nantes au quotidien. Nantes qui n'a qu'un point de retard, donc je le disais, sur Auxerre, mais Nantes et on va commencer avec toi Timothée, n'a plus gagné un match de Ligue 1 depuis le 12 février. C'est incroyable.
Ouais, pire, cette équipe n'arrive pas à marquer. Elle n'a pas marqué sur les 4 derniers matchs. Elle n'a pas marqué dans le jeu depuis plus de 9 heures. Bref, c'est une équipe qui n'y arrive pas, très clairement, qui va devoir reprendre confiance. On avait la sensation qu'ils allaient peut-être mettre le bus. La composition semble prouver plutôt l'inverse, hein. C'est une composition pas nécessairement très très défensive côté nantais. Je vais te la donner dans un instant. Juste avant ça, je voulais quand même te signaler côté lillois une titularisation surprise, celle de Mohamed Bayo. C'est sa 6e titularisation seulement depuis le début de la saison. Il n'avait plus été titulaire depuis le 1er février face à Clermont. Et bien Paulo Fonseca l'a sorti de sa botte et il sera dans un dispositif lillois qui lui sera vraisemblablement très offensif parce qu'on imagine un 4-4-2 avec un milieu en losange. Du côté de la composition de étonnante. Donc Alban Lafont sera dans la cage, Nicolas Palois, Castelletto, João Victor sur le côté droit, Quentin Merlin sur le côté gauche, Moutou Samy Giroto à la récupération, une ligne de 3 dans ce 4-2-3-1 composé de gauche à droite de Marcus Coco, de Charles Traoré et de Ludovic Blas, et à la pointe de l'attaque Ignatius Ganago.
Lille, on en reparle dans un instant de cette course à l'Europe.
Pardon, il y a une petite erreur, Timothée, Palois est sur le banc de touche, hein. Palois est sur le banc.
Alors je vérifie ça. Oui, ouais, effectivement. Ouais, non, c'est Giroto en fait, qui descend et c'est Chirivella.
Chirivella qui est titulaire.
Il est revenu, le retour.
Ouais. Ouais, mais en fait, je vais être très franche, je comprends pas la composition. En fait, c'est vraiment très surprenant. Quentin Merlin, a priori, va se retrouver milieu de terrain, si je comprends bien. Alors qu'il a joué, c'est un milieu de terrain de formation. Alors qu'il a joué depuis qu'il est en pro, il joue toujours latéral gauche. A priori, ça peut être ça. Ils vont peut-être partir dans un 4-4-2 ou à 5 derrière. On a beaucoup de mal avec les
gauches. Un 3-4-3 plutôt avec Castelletto, Giroto, João Victor, Traoré, oui. Merlin sur les côtés, Moutou Samy, Chirivella dans l'axe, et puis les trois de devant, Coco, Blas et Ganago.
Ça veut dire que Merlin jouerait côté droit, ça va pas du tout l'avantager, donc ça me semble un peu bizarre. Bon, voilà, on verra.
Ouais, Seb Piussel.
En tout cas, si on devait retrouver Merlin mieux de terrain, bon, ça me choquerait pas parce que c'est à la base il a une formation de milieu, mais surtout pas à droite, quoi. Enfin, à voir comment ça va. Ouais.
De toute façon, Timothée.
En tout cas, il a fait des choix assez forts. Hein. Santonze était quand même un titulaire à droite. Il est sur le banc de touche. Et puis également Nicolas Palois, hein, qui est quand même
un titulaire indéboulonnable.
Il était déjà sorti assez tôt, hein, contre Montpellier.
Non, en revanche, Blas, il y avait un doute cette semaine. Blas est bien titulaire. Il y avait un énorme doute.
Bon, en tout cas, Timothée, dans les premières minutes, nous donnera justement un peu l'état de cette compo sur le terrain en réel. David, la semaine nantaise, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que... Bon, c'est pas qu'une impression, on voit les résultats, on voit les performances, c'est catastrophique pour les Nantais en ce moment. À quoi Pierre Aristouille s'accroche? Je sais qu'il a beaucoup parlé du mental cette semaine, et finalement de cette équipe qui n'était pas prête mentalement à jouer le maintien. C'est peut-être ça aussi les choix de ce soir, quoi. Il a peut-être choisi des joueurs... qui sont plus prêts mentalement à la bagarre.
Bah, il avait dit, hein, après la déroute à la Beaujoire la semaine dernière, c'était samedi dernier contre Montpellier, 3-0, il a dit il y a des joueurs qui ont peur, qui tremblent, il va falloir que je fasse des choix. Alors il en a fait 111, moi ça ne m'étonne pas du tout, on sentait vraiment qu'il n'était plus du tout dans le coup depuis plusieurs semaines. Nicolas Palois, c'est un petit peu plus surprenant, même si Seb le disait, il est sorti la semaine dernière face à Montpellier assez vite. Il essaie de trouver des solutions là avec cette composition d'équipe, que ce soit les médias locaux, les médias nationaux, personne n'avait cette compo. Il tente des choses. Je sais qu'il devait, alors je ne sais pas si ça a été le cas, il devait passer une vidéo à ses joueurs avant le match.
Une vidéo
qui retraçait les meilleurs moments, les moments de complicité, les moments d'émotion du FC Nantes. Parce qu'il y en a eu cette saison. Il y a eu évidemment la Coupe d'Europe, ce match à Turin, un but partout, cette épopée qui s'est mal finie, mais en Coupe de France avec cette victoire contre Lens de Buzyn, cette victoire 1-0 contre l'Olympique Lyonnais à la Beaujoire où Nantes fait vraiment un très très beau match, sans doute le meilleur match de Nantes cette saison. Donc il devait réaliser, enfin en tout cas cette vidéo était faite, donc c'est comme ça qu'il essaie de relancer ses joueurs. Mais il y a un souci, c'est le problème physique, j'en parlais tout à l'heure Seb, c'est que cette équipe, c'est son 52e match, c'est l'équipe qui a le plus joué en France avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France et le championnat, et les joueurs ils sont totalement rincés. On l'a vu à Toulouse lors du premier match de Pierre Aristouille, au bout de 65 minutes ils n'avaient absolument plus de gaz. Bon. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur sur ces deux derniers matchs pour les Canaries.
La compo, personne ne la comprend. En fait, Seb, pourquoi pas? Parce que quand la compo, tout le monde la comprend, il ne se passe rien.
Finalement. L'important, pourquoi c'est pas que les joueurs la comprennent.
Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas? C'est peut-être une bonne nouvelle qu'on ne comprenne pas la compo.
Ouais, alors, comme Pierre Aristouille était à la formation, peut-être que justement, il souhaite revoir Merlin dans un poste un peu plus haut. Et peut-être qu'aussi, on parlait d'aptitude physique, peut-être qu'il n'a pas les cannes non plus pour partir de plus loin. Parce que c'est quelqu'un qui aime prendre son couloir. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut avoir aussi Traoré et Merlin devant lui, en fait. Ça peut être aussi, à mon avis, ça va être ça. Mais voilà, sur l'aspect athlétique, je pense que sur les deux, trois derniers matchs, t'es obligé de penser à autre chose. C'est vraiment l'aspect mental, quoi. Il faut, entre guillemets, j'aime pas parce que j'aime le jeu, mais il faut aller à la guerre. Enfin, il faut tout donner, il faut être organisé, forcément.
En mode combo, un peu, quoi. Finalement. Merci. Alors David Philippot, on te retrouve dans quelques minutes pour Angers 3 et
si vous voulez bien venir me voir,
on va passer. Mais bon courage, hein, on compte sur toi. Je vais venir te voir, mais je sais pas pourquoi.
Déjà, tu iras plus à Lyon.
C'est à toi de me dire pourquoi dans quelques minutes.
Enfin, quand il y aura des buts, peut-être. Hein.
Et on retrouve Timothée dans un instant, puisque ce match entre Toulouse et entre Lille et Nantes, donc concerne le maintien avec les Nantais et la course à l'Europe avec les Lillois, avec également les Rennais, les Monaco, les Monégasques. On ira au Roizen Park avec Xavier Grimaud, le Groupama Stadium également avec une soirée qui s'annonce monumentale, historique en tout cas pour l'OL avec l'hommage à Jean-Michel Aulas. 20h41, on est à 20 minutes des coups d'envoi de cette 37e journée de Ligue 1, coup d'œil à l'étranger ou à un quart d'heure de la fin. Benfica se prépare à être champion, 3-0 face à Santa Clara. Porto mène également 3-0 contre Guimarães, mais Benfica conserve ses deux points d'avance. C'est la dernière journée. 20h41, l'After Live avec Sébastien Piocelle. On revient dans un instant.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Ah, quelle excitation! Il est 20h43 dans 17 minutes, le coup d'envoi de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Tous les matchs, les 10 matchs à 21h, multiplex, nos commentateurs sur tous les stades, le titre probable du Paris Saint-Germain, la course au podium, le maintien, la course à l'Europe dont on va parler dans un instant avec Sébastien Piocelle qui nous accompagne jusqu'au coup d'envoi. On ira également sur les quelques stades où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais il y aura quand même des choses à dire, enfin, on l'espère, on demandera à nos commentateurs sur place. Mais restons avec Timothée Mémon qui est à Pierre-Mauroy où Lille reçoit Nantes, les Nantais, on l'a dit, la course au maintien, et les Lillois de leur côté qui visent l'Europe. Ils sont actuellement 5e de Ligue 1. Ils ont 2 points de retard sur la 4e place occupée par Monaco et donc la Ligue Europa. 1 point d'avance sur le Rennais. Dans un instant, on ira au Roizen Park pour Rennes-Monaco. Timothée, Lille vise l'Europe et donc pas forcément la Ligue Europa Conférence.
Oui, la Ligue Europa nécessairement, parce qu'il y a cette double confrontation dont tu as parlé il y a un instant entre Rennes et Monaco. Lille peut sortir grand gagnant finalement de cette double confrontation. Je le disais un petit peu plus tôt. On peut décemment imaginer que Lille puisse battre Nantes à domicile face à une équipe moribonde. On peut décemment imaginer par exemple que Monaco et Rennes fassent match nul. Eh bien, si ne serait-ce qu'il y avait un match nul entre Monaco et Rennes, Lille reviendrait à égalité de points de Monaco à 66 points, mais avec un goal average favorable, ce qui veut dire que Lille serait maître de son destin lors de l'ultime journée et d'un déplacement à 3 qui semble aussi à la portée des Lillois. Donc forcément, 5e, c'est une bonne performance pour cette équipe de Lille, mais on peut décemment rêver à l'Europa League directement via la 4e place. Attention tout de même à ne pas viser trop, à ne pas oublier de regarder dans le rétro, parce que derrière, il y a Rennes, il y a Lyon qui ont les crocs bien acérés pour essayer de reprendre cette place aux Lillois. Il ne faudra pas se rater aujourd'hui face à une équipe qui joue, on le rappelle, son maintien.
Merci Timothée, on te retrouve dans quelques minutes. Un quart d'heure maintenant pour le coup d'envoi de ce Lille-Nantes. Un avenir européen du LOSC qui dépend donc beaucoup, tu le disais Timothée, de ce match entre Rennes et Monaco. Ça se passe au Roizen Park sous les yeux de Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Thibaut, salut à tous.
Bon, salut Xavier.
Affiche séduisante, sexy sur le papier.
La meilleure de la soirée, n'en cachons pas.
Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Oui, Seb.
Il était à Laval hier, donc il peut aller. En fait, je crois que c'était pas mal hier.
Alors, sur le papier, oui, mais t'as quand même deux déçus de la saison qui sont face à face, Xavier. Et celui qui perd ce soir pourrait même être très, très, très déçu.
Oui, effectivement, c'est vrai. Alors, il y a un vrai déçu, c'est Monaco, et un petit déçu, c'est Rennes. En tout cas, si on... je te dis, si on écoute les dirigeants rennais. Les dirigeants rennais, ils dédramatisent totalement.
Il vient nous prêcher la parole présidentielle, celui-ci. Là.
Non, je dis juste que c'est leur parole. Ils considèrent que la saison, pour l'instant, elle est bonne et qu'elle peut être très bonne si Rennes se qualifie pour une Coupe d'Europe. Ce que Rennes peut effectivement faire en gagnant face à Monaco, il leur passe devant à la différence de but. Et ensuite, il y aura ce derby à Brest pour essayer de rester dans le top 5. Donc bon, pour ça, il faut battre Monaco. C'est un match qui va être ouvert. On en parlait tout à l'heure, c'est parce que Monaco, évidemment, a une défense un peu gruyère. 13e défense de Ligue 1. Monaco n'est pas en confiance, évidemment. Rennes, sur la dynamique, logiquement, devrait, pourquoi pas, réussir à s'adjuger le scalp des Monégasques. Mais bon, Monaco est dos au mur. Et forcément, on attend une réaction des hommes de Philippe Clément. On verra. On voit dans la compo, en tout cas, il y a le retour dans le 11 d'Elias Ben Seguir, le jeune. Le retour de Guillermo Maripane également en défense, qui ne peut faire que du bien. Il y aura Ben Yedder en pointe, Golovin également. Donc l'équipe de Monaco a la fière allure. La seule question, c'est dans quel état elle va être au niveau du jeu. Est-ce qu'elle va réussir à jouer face à une équipe rennaise qui, c'est sûr, va mettre beaucoup d'intensité. L'ambiance, ça va être magnifique, vraiment magnifique. Le Roizen Park, il est plein à craquer. Ce sera certainement la plus belle affluence de la saison. Plus de 28 000 spectateurs. Il y a Frey et Monterrubio qui vont donner le coup d'envoi. Ah. Alexander Frey, idole local évidemment, il n'était jamais revenu à Rennes.
Monterrubio, de mémoire, il avait changé après sa carrière, hein, physiquement.
Il est toujours gaucher.
Monterrubio. Oui, il a un petit peu changé, mais Frey, voilà, c'est 52 buts en 117 matchs avec Rennes. Il est sur le mur des légendes du Roazhon Park que l'on peut voir avec d'autres légendes comme Petr Cech notamment. Donc voilà, il y a les supporters, okay. Ils sont chauds bouillants, je peux te le dire. Maintenant, c'est à Rennes de ne pas décevoir ses supporters et on verra si Monaco peut tenir face à un Rennes qui est en général plutôt en forme à domicile.
Nolwenn Leroy derrière toi, ou je suis total cliché là.
Comment, c'est l'hymne breton qui est chanté.
Ouais, bon, c'est pas Nolwenn Leroy qui chante.
Non, c'est pas Nolwenn Leroy qui chante.
Merci.
Je ne connais pas Nolwenn Leroy, c'est une fausse bretonne.
Oh bah non, celui-là. Un mot Seb sur cette course à l'Europe avec les Monégas qui ont l'avantage quand même d'avoir 2 points d'avance sur Lille et 3 sur Rennes, mais est-ce que au vu de cette confrontation directe et de la forme des Lillois, on se dit pas que finalement c'est les Lillois qui sont les mieux placés pour finir quatrième.
Certainement. Après, ouais. C'est un avantage fragile parce que tu vas jouer à Rennes donc contre un concurrent direct. Donc on l'a dit dans la semaine, ils peuvent tout perdre carrément les Monégas. Donc ils pourraient se dire aussi, on fait nul à Rennes. Dans ce cas-là, Rennes ne passe pas devant. Mais si Lille l'emporte, ils vont passer devant Monaco au Golavirage.
Oui.
Sachant qu'après Lille va aller jouer à 3. Donc compliqué comme match pour Monaco. Après, quand on voit la deuxième partie de saison, notamment là les deux derniers mois, c'est quasiment logique hein, que c'est même presque un miracle qu'ils aient encore 2 points d'avance. Ouais, mais ça serait une saison complètement manquée pour les Monégas.
À tout à l'heure, Xavier. 21h, le coup d'envoi de ce Rennes-Monaco, match sur lequel on parie tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et dans un instant, on va à Lyon pour ce Lyon-Reims au Groupama Stadium. Johan Bredov est là, salut Johan.
Salut Thibaut, salut Seb, salut à tous.
Que disent les cotes?
1,96, la victoire de Rennes, favori à domicile. 3,85, le nul. 3,65, la victoire de Monaco. Rennes qui est la deuxième meilleure équipe à domicile hein, du championnat derrière. Lens, ça peut expliquer. Derrière Angers, ouais, t'as raison. Ça peut expliquer les cotes. Moi, je vois la victoire rennaise. 1,96. La dynamique est plutôt de leur côté. Surtout que la dynamique n'est pas du tout du côté de Monaco. 1,96. Le but de Guiri, si on le rajoute, ça fait une cote à 3,30. Sinon, Rennes et les deux équipes qui marquent, ça permet de tripler la mise. Ça aussi, c'est intéressant. Seb, qu'est-ce qu'on joue?
Ouais, je vais presque te suivre. Alors, le fait qu'il y ait des buts des deux côtés, vu les joueurs alignés des deux côtés, je pense que ça sera le cas. Guiri buteur, mais je vais quand même me couvrir avec Rennes qui ne perd pas.
Eh bien, ça, c'est 3,60. Donc, Rennes ne perd pas les deux marques et Guiri. Et il y a la grosse cote boostée proposée par notre partenaire. Au moins 28 buts sur les 10 matchs à 21h. Et ça permet de doubler la mise. C'est une moyenne.
J'ai fait un petit calcul de 2,8
par match.
C'est un petit calcul vite fait.
On nous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20h50, c'est dans 10 minutes le coup d'envoi de cette 37e journée de Ligue 1 en direct sur RMC dans l'After Live avec Sébastien Piocel. Dans un instant, on termine notre tour des stades. Mais ce soir, l'endroit en tout cas où l'émotion sera peut-être la plus forte. Bon, on verra. Ce sera peut-être le Groupama Stadium. Salut Edouard G.
Salut Thibaut, re-salut Seb.
Re-salut.
Lyon reçoit Reims ce soir. Bon, il y a un espoir infime, un tout petit d'Europe pour les Lyonnais qui ont à 59 points, donc 4 de retard sur la 5e place européenne, mais difficile.
Je te rassure, personne n'en parle. Hein.
Ouais, c'est ça. Puis il y a un autre sujet depuis quelques semaines et qui se matérialise ce soir. Tout le monde ne pense qu'à Aulas. Les adieux ce soir.
Ouais, les adieux et à l'instant des deux énormes tifos COP Virage Nord avec le blason de l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas avec trois portraits différents de lui, la main levée avec un trophée, une Coupe de France dans les mains au milieu et puis une photo presque de sa prise de pouvoir en 87 quand il avait 38 ans, donc avec des traits assez jeunes. Ça c'est côté nord, et puis côté sud ils sont en train de descendre aussi un tifo merci président avec toujours les logos historiques de l'OL qui ont un petit peu habité un petit peu Jean-Michel Aulas tout au long de ses 36 ans de 2380 matchs, 75 trophées. Le 16e a été remis tout à l'heure, le 75e a été remis avec le trophée des championnes de France, puisqu'aujourd'hui il y avait deux Lyon-Reims au féminin à 17h30 et le Lyon-Reims à 21h. Et ce soir, il aura son 19e entraîneur de sa carrière ici à Lyon. Voilà pour les quelques chiffres. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Je peux vous dire que les joueurs, le staff, les supporters sont là depuis longtemps et dans le stade. Et qu'il y a une ferveur incroyable pour un match qui compte presque pas, parce que l'Europe...
Mais il y a juste un truc à retenir, je parlais de dinguerie sur les compos, c'est chez toi, Boateng titulaire.
Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, oui, ça m'avait même échappé quand on m'a envoyé, parce que tellement j'étais sûr que c'était Thiago Mendes. Ouais. Et puis finalement, en regardant plus attentivement pour mettre sur mon petit cahier, j'ai vu que Jérôme Boateng était là. Lui qui n'a pas joué depuis. Il a joué 7 minutes à 3 le 4 février dernier. 67 minutes, c'était le 6 novembre 2022 à Marseille. Et son dernier match plein, c'était le 30 octobre. 2022 quand même, mais ça fait quand même loin pour un.
C'est quoi, il est en fin de contrat, non? C'est quoi?
Il est en fin de contrat et surtout il y a
l'absence pas d'ovation.
Non, je pense pas. Ah. Non, c'est pas pour lui faire plaisir parce qu'il y a Lovren et puis Diomandé qui sont blessés. Oui.
Merci Edouard, tu nous racontes cette soirée, la Derdolas historique à Lyon ce soir sur RMC. On termine notre tour des stades. C'est une question que je pose en même temps à Max et à Bolin qui bosse en régie. Il nous reste 3 stades, Max. Qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant ou on fait une petite pause? On y va maintenant. Il reste 3 matchs. Montpellier-Nice, Clermont-Lorient, Angers-3. Et quand à 20h53 on va sur ces stades, vous avez compris que c'est pas là où il y aura le plus d'enjeux ce soir. Salut Julien Landry.
Je pensais faire l'ouverture à 20h, mais non, c'était pas le cas.
tu feras peut-être l'ouverture sur TF1 pour autre chose, mais bah.
Ouais,
Montpellier-Nice, donne-nous une bonne raison de venir te voir ce soir.
Les Montpellierains qui veulent aller accrocher les Niçois dans cette course à la 10e place. Der Zakarian a toujours terminé parmi les 10 premiers lorsqu'il était entraîneur de Montpellier. Il est aujourd'hui 12e à 5 points des Niçois et une victoire ce soir. Il reviendrait dans la course pour aller chercher cette 10e place. Et puis Der Zakarian le dit, bien finir une saison, c'est l'assurance de bien démarrer à la suivante. Et puis il y a toujours TJ Savanier à venir voir à la Mosson. Soir de mois de mai, un bon soleil.
Je suis pas trop sûr de ça là, mais.
Si, Savanier au mois de mai, soleil, c'est régalade assuré.
Et bah profite bien, Julien, et puis peut-être qu'on passe te voir tout à l'heure.
À 22h30 à peu près.
Ouais, environ, à tout à l'heure. Damien Tardieu et Gabriel Montpied, Clermont-Lorient. Salut Damien.
Salut Thibaut, salut Seb, salut tout le monde. Damien.
Une bonne raison de venir te voir ce soir?
Déjà, Nolwenn Leroy a des origines auvergnates. Ah. Voilà, sache-le, elle a passé ses époques
du coup,
collège.
Du coup, il viendra pas, je crois.
Là, si, c'est sympa.
Vichy, ah, si, j'ai vu qu'il était fan.
C'est gagné, tu fais l'ouverture du 21h.
Wow, j'ai gagné, yes. Non, sinon, on a deux des belles surprises de la saison, vous en conviendrez, ça, messieurs. Clermont et Lorient, 8e et 10e du classement qui se tiennent en un petit point. Clermont a un point d'avance sur Lorient. Il y a 4 équipes qui se tiennent en 2 points là en milieu de tableau. Il y a des données financières également. Hein, entre la 8e et la 11e place, il y a quelques centaines, voire quelques millions d'euros de différence. Okay. Voilà, on espère en tout cas deux équipes qui sont réputées pour leur jeu. Donc on espère voir du beau jeu et des buts.
A tout à l'heure, Damien et David Filippo. Nous ne parlera pas de Nantes ce soir. Mais d'Angers et 3 à Raymond Coppa, une bonne raison de venir te voir pour ce match, David?
J'ai du mal à en trouver une parce qu'effectivement ces deux équipes sont déjà reléguées. Il y a quand même le Angersco qui va essayer de battre un triste record. Ils ont 15 points les Angevins, le plus faible total d'un club en Ligue 1. C'est Lens en 88-89, c'était 17. Il leur reste donc 2 matchs, ce match du jour et la semaine prochaine à la Beaujoire, donc contre Nantes, pour essayer de battre ce triste record de 17 points détenu par Lens. Voilà. Sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Sinon il y a Alexandre Dujeu quand même qui a prolongé 2 ans, ça sera lui l'année prochaine l'entraîneur d'Angersco en Ligue 2.
Merci David, à tout à l'heure.
Je suis désolé.
20h56, le coup d'envoi de ce match et des 9 autres bien sûr dans 4 minutes en direct sur RMC. Merci beaucoup Seb Piocel.
Merci à vous, bon
c'était
match.
Un plaisir, bonne soirée.
Très bon match.
La soirée continue, elle commence même sur RMC. Sachez juste rapidement que Luton Town est en PL, c'est qualifié au tir au but ce soir en barrage montant en première ligue, et Benfica en passe d'être champion, ce sera dans quelques minutes au Portugal. 20h56, l'after live sur RMC. On parle, mais le grand moment c'est maintenant, le début de la 37e journée de Ligue 1. Ne changez rien, vous êtes sur RMC, l'after live continue.
RMC, l'after live.